En France, on prend beaucoup de médicaments. On en prend peut-être plus que dans d'autres pays d'ailleurs. Je ne sais pas d'ailleurs si on sait exactement ce que c'est qu'un médicament, comment ça fonctionne. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait aborder ce sujet d'ailleurs sur le médicament en tant que matériau thérapeutique bien sûr. Et j'ai invité Monsieur Marc Deschamps, qui est professeur de physique à l'Université Lille. Bonjour Monsieur Deschamps.
Bonjour monsieur.
Donc vous êtes professeur de physique et vous travaillez dans un laboratoire dont vous êtes le responsable, un laboratoire où on observe et on cherche autour des matériaux moléculaires et thérapeutiques.
Oui, c'est ça. Enfin, je ne suis pas vraiment le directeur du laboratoire, je suis responsable de cette équipe qui est inclue dans un plus gros laboratoire qui s'occupe sur le campus ici des matériaux en général, donc des matériaux moléculaires en particulier, les nôtres, ou aussi la métallurgie, etc. Donc voilà.
Ces médicaments que l'on consomme, c'est-à-dire que l'on absorbe sans trop savoir, ils ont forcément des propriétés qui leur permettent d'être actifs, du moins en théorie.
Oui, en théorie, effectivement. Bon, il faut savoir que la majorité des médicaments, 80% des médicaments sont sous forme solide, hein, des comprimés, des gélules, etc. Et effectivement, on imagine que si ces médicaments donc sont faits de molécules actives, mais aussi de ce qu'on appelle des excipients, des sucres, quand on regarde la composition d'un médicament, on voit quelques milligrammes de la substance active, mais on voit aussi des polymères, etc. Qui ont un rôle extrêmement important pour assurer la conservation, la libération, c'est-à-dire le fait que les molécules actives soient dispersées plus ou moins rapidement dans l'organisme, aider à tout ça. Donc le médicament, c'est un ensemble de composés qui, en majorité, est sous forme solide, effectivement. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on a les médicaments qu'on prend sous forme de pilules, des sirops, des choses qu'on s'injecte,
Oui.
même en perfusion, hein,
Oui,
en
tout à fait, oui.
injection, etc. Chaque méthode a des effets certainement différents, je pense, et ce médicament, on peut le retrouver dans des formes variées.
Je ne suis pas pharmacien,
Oui,
hein,
oui,
donc
oui.
là, vous me posez un petit peu des questions qui sont un petit peu en dehors de mon champ, hein, mais vous parliez de piqûres ou d'injections. Il est effectivement dans ce type de médicaments, on trouve aussi des particules solides qu'on ne voit pas, qui sont des nanoparticules, qui sont dans le liquide que l'on injecte et dont le rôle est d'être dispersées petit à petit dans le corps. Voilà, bon, après, l'aspect activité de la molécule, ou même la conception de la molécule elle-même, ça rentre en dehors de notre champ. Nous, nous nous trouvons un petit peu, si vous voulez, dans la propriété du matériau lui-même, parce que bien sûr, quand vous avalez un comprimé, il faut qu'il se dissolve. Et pour se dissoudre, et qu'il se dissolve pendant un temps raisonnable, pour qu'on ait la dose qu'il faut, pendant le temps qu'il faut, etc. Et donc tout ça veut dire qu'il faut contrôler les propriétés du matériau, parce que le matériau lui-même, ses propriétés vont influencer ses propriétés, ses caractéristiques de dissolution. Et qui gère après ce que l'on appelle, les pharmaciens appellent, la biodisponibilité. Donc voilà.
Donc pour ce médicament, une fois qu'il est dans le corps, on va dire que c'est le parcours du combattant.
Oui, c'est le parcours du combattant, surtout que bien sûr, la solubilité est dans l'eau, mais vous allez avoir, bien sûr, dans le corps des acidités particulières, des pH particuliers. Par exemple, pour soigner les intestins, il faut que l'on ait un matériau qui ne se dissolve pas dans l'estomac, mais qui aille jusqu'à l'intestin. Donc il faut avoir, si vous voulez, ce que les pharmaciens appellent maintenant des vecteurs thérapeutiques pour aller vers la cible de façon la plus efficace possible.
Ça fait penser un petit peu au feu d'artifice, où il y a des étages comme ça de fusées qui se développent à un moment donné du parcours pour avoir des effets différents.
Oui, c'est un peu ça. Bon, nous, on le regarde au niveau du matériau, mais on s'aperçoit que quand on a des formes différentes d'un même matériau fait des mêmes molécules, on peut avoir des propriétés de libération complètement différentes. Enfin, je veux dire, pour éclairer peut-être qu'est-ce que ça veut dire que ces formes différentes, sur des cas qui ne sont pas des cas de la pharmacie. Si on prend le carbone, par exemple, vous prenez le carbone cristallin, c'est le diamant. Bon, tout le monde pense au diamant. Mais le carbone cristallin, ça peut être aussi le graphite. qui est une autre forme du carbone solide. On appelle ça de polymorphisme. Alors le diamant est transparent et dur, le graphite c'est noir, c'est ce qui fait la pointe de nos crayons, donc c'est friable. On imagine bien que c'est toujours le carbone au départ, uniquement le carbone, mais des formes solides différentes. Donc ces formes solides différentes vont avoir des propriétés complètement différentes. Et en pharmacie, les molécules sont tellement compliquées qu'on peut avoir un polymorphisme extrêmement riche, beaucoup de variétés de formes, plus ou moins, et ces formes sont plus ou moins stables, plus ou moins métastables, plus ou moins solubles. Et c'est ce qu'il faut absolument gérer actuellement, et il y a un grand problème de l'industrie pharmaceutique actuelle, c'est que les nouvelles molécules thérapeutiques, en général, ne sont pas solubles, ou très peu solubles. Donc on a des médicaments potentiels, avec des molécules potentiellement extraordinairement actives, mais qui, ne voudraient pas se dissoudre, ou se dissoudraient trop vite. Voilà, et c'est ça qui nous intéresse, nous, de faire ce lien, si vous voulez, entre ces propriétés physiques, ces différentes formes possibles d'un médicament. Vous prenez le paracétamol, par exemple. Le paracétamol a plusieurs formes polymorphiques différentes. Il y a une forme qui se comprime très facilement, mais que l'on a, donc qui permettrait de faire un comprimé facilement, vous comprimez, ça tient, disons, hein, mais malheureusement, cette forme est très difficile à obtenir. Et l'autre forme que l'on obtient très facilement, par contre, elle ne veut pas se comprimer. Et donc il faut avoir des recours à des tas d'astuces pour le faire se comprimer de paracétamol. Donc voilà un problème qui est lié à la base, à cette propriété intrinsèque de ce que l'on appelle le polymorphisme cristallin du paracétamol. Et là, on retrouve notre physique du solide qui est notre problème.
Alors, dans ces médicaments, certains ont des formules très compliquées. Donc, une même formule peut, selon le matériau qui en résulte, on va dire, avoir des effets complètement différents.
Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir, il y a un exemple justement, si vous voulez, la pharmacie l'a réalisé, l'industrie pharmaceutique l'a réalisé seulement assez récemment, 10-15 ans, en particulier avec un cas historique d'un médicament qui sert dans les trithérapies pour le sida, qui s'appelle le ritonavir, et le laboratoire américain qui avait développé ce médicament, qui s'appelle le laboratoire Abbott, sans s'en rendre compte, avait développé ce ritonavir sous une forme cristalline métastable, pas la plus stable. Et cette forme métastable, parce qu'elle est métastable, se dissolvait correctement. Mais au bout d'un an, deux ans, dans les pharmacies d'officine, ce ritonavir s'est converti vers sa forme, son autre forme cristalline, plus stable, mais qui étant plus stable ne se dissolvait plus. Donc il y avait des problèmes pour les patients. Ils n'ont pas réalisé tout de suite. Le médicament n'était plus efficace. Alors, ça a été une catastrophe. Les actions de ce laboratoire sont tombées. Et depuis, la pharmacie fait très, très attention à ces problèmes, tellement que, on prend des brevets. La pharmacie prend des brevets sur les molécules, mais ils prennent des brevets sur les formes cristallines maintenant. Et ils étudient extrêmement en détail cet aspect-là.
Est-ce qu'un médicament, au fil du temps, peut perdre ses propriétés s'il est la date est dépassée
Par exemple, oui.
Ouais, c'est ce cas-là.
Typiquement, ouais. Typiquement, si le médicament n'est pas formulé dans la phase qu'il faut. Et si l'on ne peut pas garantir que pendant 3 ans ou 4 ans, cette forme va rester cette forme, les propriétés de dissolution en particulier, ou même de stabilité chimique, peuvent être perturbées.
Donc on peut dire aux gens, s'ils ont des médicaments périmés, de ne pas les consommer, c'est clair.
Peut-être, oui.
on ne sait jamais,
voilà, tout à fait. Mm-hmm. Oui.
Monsieur Descamps, on a bien compris les enjeux de ces matériaux thérapeutiques pour arriver à des résultats dans le sens d'un progrès, c'est-à-dire où le patient est soigné selon les prévisions des médecins. Comment vous agissez en amont ?
Bon, écoutez, nous, on n'est pas en contact direct avec le médecin. Je vous dis, on n'est pas pharmacien. On travaille de concert, en particulier dans un réseau de l'Eurorégion, qui a été formé il y a 2 ans. On travaille en contact étroit avec des pharmaciens, eux, qui vraiment ont, eux, ce problème pratique. de réaliser un médicament. Et nous, ce que l'on fait en contact avec eux, c'est d'étudier, du point de vue de la physique du matériau, les propriétés de ces matériaux pour leur dire, voilà, ce matériau, il a telle propriété, et pour l'utiliser de façon optimale, préparez-le de telle façon, etc. etc. Hein, donc voilà, si vous voulez, c'est toute une chaîne. Hein, la préparation d'un médicament, j'ai compris que depuis le moment où l'on a la nouvelle molécule jusqu'au moment où le médicament est disponible sur le marché, il faut 10 ans. Et 10 ans d'études, si vous voulez, où d'abord il y a le choix de la molécule, ensuite il y a les propriétés du matériau lui-même, cet assemblage de molécules, ce que je vous disais, ces formes cristallines différentes, métastables, etc., en plus de tous les problèmes de toxicité, etc. Donc, si vous voulez, c'est une chaîne énorme, et nous, on est là, un élément de cette chaîne où on essaye de contribuer à... en étant physicien, ce qui est peut-être un peu original, parce que jusqu'à présent, ces propriétés de l'état solide des médicaments étaient surtout étudiées par les pharmaciens, mais il y a un besoin maintenant d'aller vers un peu plus de fondamental pour maîtriser ça, quoi.
Vous travaillez sur des molécules qui vont sortir sur le marché par la suite ou aussi sur celles qui existent pour les contrôler périodiquement ?
Oui, les deux, parce que il y a des molécules qu'on appelle des modèles, si vous voulez. Il y a des matériaux qui sont connus depuis longtemps. Je veux dire la caféine, par exemple, ou l'aspirine ou le paracétamol. Donc on peut, si vous voulez, les propriétés de ces matériaux sont toujours extrêmement intéressantes à étudier du point de vue de la physique des matériaux, parce que ça n'a quasiment pas été étudié à fond jusqu'à présent. Voilà. Mmh. Et aussi, on le fait fréquemment en liaison avec des laboratoires pharmaceutiques sur de nouvelles molécules thérapeutiques qui sont en développement. Et on fait le même genre d'études, en fait.
Est-ce que sur les médicaments génériques, ils ont la même formule, mais les modes de les modes de fabrication sont parfois un peu différents. Est-ce que là aussi, vous pouvez, sinon certifier,
ça,
au moins...
Ça, c'est le terrain glissant et dangereux, effectivement. Quand on c'est vraiment c'est une question d'actualité, où prendre position est dangereux, là. Hein, mais effectivement, si on regarde ce qu'est un médicament, c'est une substance, une molécule active, et des excipients qui sont autour. Donc ces sucres, ces polymères qui vont faire que votre substance active va se libérer plus ou moins vite. Bon. Alors, le médicament, ça n'est pas que la molécule. Effectivement, quand il y a un générique, c'est la même molécule. Mais ça n'est pas forcément les mêmes excipients autour. Donc vous pouvez trouver des formes médicamenteuses où vous ayez plutôt que tel sucre, tel autre sucre. D'ailleurs, on constate les comprimés sont quelquefois plus gros, etc. Donc c'est la même molécule au départ, mais son environnement, voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Le médicament, c'est un ensemble. Et si vous voulez, il y a des problèmes parce que il y a beaucoup de laboratoires génériques de pays dehors de l'Europe en particulier, qui contournent les brevets en produisant un produit pharmaceutique, mais pas sous la même forme cristalline. C'est la même molécule, mais ça n'est pas le même arrangement cristallin, et donc pas forcément la même vitesse de dissolution, etc. Donc là, il y a des problèmes, il y a des vraies questions.
Donc on comprend bien que votre action se fait dans un cadre d'enjeux assez énormes.
Ah oui, je pense qu'il y a de gros enjeux. Oui.
Et donc ces enjeux sont bien sûr importants et méritent que des gens se regroupent, des laboratoires se regroupent peut-être. On peut parler de l'échelle régionale, mais aussi de l'échelle européenne.
Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est ce que l'on a fait, nous, ici. Bon, c'est un peu une chance, d'ailleurs. Si vous voulez, il y a ces développements, ces programmes qu'on appelle les programmes Interreg, que l'Europe crée pour créer des liens entre les régions frontalières. Hein. En particulier, il y a une région, ici, on appelle le programme Interreg des deux mers, donc qui essaye de relier, de créer des interactions entre le Nord-Pas-de-Calais, entre la Belgique flamande, entre le sud-est de l'Angleterre, Cambridge, et par chance, il y a dans cette région des collègues qui ont les mêmes objectifs avec des compétences un petit peu complémentaires. Donc on a créé un réseau dont Lilin est chef de file ici, je suis responsable de ce réseau, avec Lille 2 où on travaille avec le laboratoire du professeur Shipman qui est un galéniste lui, donc c'est un pharmacien qui fait, prépare ces médicaments, mais en tant que pharmacien. Donc, voilà. Et puis, à Cambridge, il y a un laboratoire, alors là, plutôt de chimie du solide, un autre laboratoire anglais de pharmaciens galéniciens, un laboratoire de Gand, laboratoire universitaire, et une petite entreprise pharmaceutique qui s'occupe aussi beaucoup de développement. Et nous travaillons sur ce problème particulier d'essayer d'améliorer les méthodes d'analyse et de production qui permettent d'améliorer la solubilité de ces molécules peu solubles. Donc voilà, c'est cet aspect. Et aussi, à cet aspect recherche pure, disons, formation, mise en commun de méthodes, on fait une plateforme, si vous voulez, où on échange nos compétences, un aspect formation. Parce qu'il y a l'utilité maintenant dans les laboratoires pharmaceutiques d'avoir des gens qui ne sont pas seulement des pharmaciens, mais des scientifiques de ces matériaux, par exemple. Et donc, il y a là une espèce de nouveau métier. Et donc, on essaye, à l'occasion de ce réseau, de former des thésards, d'abord. Il y a 7 ou 8 thésards sur le réseau actuellement, qui vont d'un laboratoire à l'autre. Mais aussi, on va essayer, on est en train de le mettre en place, un espèce d'enseignement, si vous voulez, un master un petit peu interrégional, ou où pourraient intervenir les collègues des différents centres pour créer cet enseignement un peu nouveau.
Voilà, donc on a bien compris l'intérêt d'un réseau, hein, à la fois pour échanger des informations, faire le point de temps en temps, et aussi former. Donc vous formez des étudiants qui sont à l'université au départ pour ces spécialités.
Bon, là oui, hein, actuellement ce sont des gens qui sont en thèse, donc ce sont des étudiants de troisième cycle. Il y en a 2 chez nous actuellement ici à Lille 1, il y en a 2 à Lille 2, il y en a 2 à peu près dans chacun des laboratoires, donc ils sont une 10-12, qui travaillent ensemble, qui échangent leurs idées. Voilà, donc ça, il y a cette activité qui est une activité troisième cycle. On va essayer de l'amener un peu au niveau master, un petit peu en amont, en option des masters matériaux en particulier, où c'est possible. Il y a aussi une volonté des universités de Lille 1, enfin de Lille 1, Lille 2, Lille 3 et Gand, de se réunir. C'est une occasion d'essayer de partager nos compétences et d'en faire profiter les étudiants pour peut-être les aider à trouver un emploi.
Vous avez mentionné donc ce travail en commun sur plusieurs pays, hein, on va rappeler France, Belgique, Angleterre. Est-ce que le nombre de personnes compétentes, formées, par rapport aux enjeux dont on parlait tout à l'heure, est suffisant ? Est-ce que vous souhaitez davantage?
Si on pouvait aller plus loin, oui, je pense. Bon, là, on le fait sur ces 6 laboratoires. Donc, il va sortir à la fin du programme une douzaine de thèses sur 3 ans. C'est un premier pas, hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir de germe pour trouver une structure peut-être européenne plus grande. On y pense, peut-être trouver un réseau, former un réseau plus important au niveau européen, au niveau national aussi. Je pense qu'il y aurait certains pays en Europe commencent sur ces thèmes-là à fédérer leurs universités, leurs laboratoires industriels par des connexions particulières. Ça va peut-être se faire aussi en France.
Donc, vous êtes à Lille 1. Est-ce qu'on peut donner une idée par rapport au nombre d'unités de recherche qui existent sur Lille 1, votre labo, il représente en poids combien?
Si vous voulez, il y a eu, lors des derniers, ce qu'on appelle les dernières contractualisations, des regroupements de laboratoires. Donc, le laboratoire auquel mon équipe est rattachée, c'est un laboratoire qui a à peu près une centaine de permanents, 100 permanents, plus les étudiants, donc c'est 150 personnes, disons. Et notre équipe, c'est avec les étudiants une vingtaine, quoi, ou 15-20, enfin ça fluctue parce qu'on a des invités qui passent, qui viennent, etc. Hein? Vous voyez, donc c'est une structure. Bon, c'est la taille d'une équipe raisonnable, si vous voulez, pour être efficace. Hein? Voilà. Donc dans ce laboratoire de matériaux qui s'appelle UMET, Unité Matériaux et Transformation, je vous dis, il y a d'autres équipes. Il y a une équipe de métallurgie, il y a une équipe qui travaille sur les matériaux de la géologie, il y a des équipes qui sont plus spécifiquement en polymères, etc. Et notre groupe, quoi. Donc, voilà.
Donc c'est financé par le CNRS ?
Oui, alors ce laboratoire est un laboratoire CNRS, donc il y a des fonds CNRS, des fonds de l'université, maintenant que les universités sont indépendantes. Et puis bien sûr, il faut des fonds, ça ne suffit pas, quoi. Donc il y a des fonds régionaux. Dans le cadre de ce programme européen dont je vous parlais, des fonds européens, il peut y avoir des fonds industriels aussi, hein, c'est clair.
Quand vous dites des fonds régionaux, c'est la région Nord-Pas-de-Calais ?
La région Nord-Pas-de-Calais, oui. La région Nord-Pas-de-Calais aide beaucoup par l'intermédiaire de programmes. Donc il y a des programmes sur les matériaux. Il y a un programme qui s'appelle le PRIM, qui est de recherche interdisciplinaire pour le médicament. Donc il regroupe des gens de l'île 2, donc des gens qui travaillent vraiment sur le développement des nouvelles molécules. Qui vont voir leur toxicité sur l'animal. Vous voyez, donc un métier assez différent d'une autre. Et puis nous, qui travaillons sur la caractérisation des médicaments, des solides que l'on pourrait faire avec ces molécules thérapeutiques. Et puis notre collègue, par exemple, Shipman de l'île 2, qui lui regarde d'un point de vue de pharmacien quelle serait la forme la plus facile à administrer. Voilà. Et donc la région aide à ce niveau-là, bien sûr. Oui, oui.
Quel est le retour sur investissement pour cette région ? Est-ce que ça crée de l'emploi ? Ça crée de la ressource ? De l'intelligence, évidemment ?
Ben, on l'espère, si vous voulez. Bon, l'objectif, c'est toujours, en créant ce réseau euro-régional, l'objectif est de faire savoir à des PME ou des structures si elles venaient s'installer dans la région ou dans leur région, elles pourraient bénéficier sur place des compétences intellectuelles, mais aussi d'équipements, de toute une plateforme, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'équipements scientifiques diverses, puisqu'il y a des équipements, bien sûr, de pharmacie, des équipements de physique, de chimie. Et donc, voilà, nous nous sommes fédérés un peu dans cet espoir aussi, pour faire vivre les choses, quoi.
Est-ce qu'il existe dans la région des zones où se regroupent des PME, on va dire, de l'industrie pharmaceutique ?
Bon, sur le site, oui, il y a Eurasanté, hein, sur le site de l'île 2. Après, savoir s'il y a des sites vraiment où ça s'est regroupé, non. Enfin, je pense que c'est un peu dispersé. Il y a AstraZeneca, par exemple, sur Dunkerque. Il y a GSK, je pense, sur Saint-Amand. Enfin bon, c'est un peu dispersé dans la région, mais effectivement, on pourrait penser regrouper les forces, peut-être pour une création amont des médicaments, tout au moins.
Donc on parlait tout à l'heure de ces médicaments qui, selon la forme dans laquelle ils sont distribués et produits, ont des effets très différents. Cette étude, enfin cette compréhension justement de ces variations selon les formes et les structures des matériaux, c'est récent ou c'est quelque chose déjà qu'on imaginait il y a longtemps ?
C'était imaginé, hein, les pharmaciens savaient qu'il y avait des formes cristallines différentes, etc. Oui, oui, c'était, mais peut-être pas. Ça prend un essor particulier par le fait que les nouvelles molécules thérapeutiques qui sont créées, les nouvelles molécules elles-mêmes, qui sont des molécules de plus en plus complexes, la plupart, 80% sont solides, et je dirais 80% de ces 80% ne sont pas solubles. Donc il faut maintenant travailler sur la forme physique elle-même. Et par exemple, travailler sur le développement. Traditionnellement, la pharmacie développe les médicaments solides sous forme cristalline, qui est une forme stable. Mais il existe une autre forme solide, qui est le matériau amorphe. Hein. Donc, pour situer les choses, vous prenez du sucre cristallisé, c'est cristallin. Vous le faites fondre, vous le refroidissez, vous avez du caramel. Bon, il est un peu marron ce caramel parce qu'il y a eu de la dénégradation chimique, mais la structure de ce caramel qui est solide, la structure est celle du liquide. Donc on a une autre forme qui est un verre, c'est un verre du matériau sucre et qui va avoir des propriétés bien supérieures de dissolution, mais aussi qui va être instable. Donc maintenant la pharmacie qui n'aimait absolument pas formuler les produits pharmaceutiques sous cette forme amorphe parce qu'elle est instable, donc elle risque d'évoluer dans les 6 mois dans l'officine, etc. Par contre, c'est probablement le seul moyen de la rendre disponible. parce que c'est très soluble. Donc actuellement, il y a un effort dans ce sens, et c'est vraiment un des points sur lesquels nous travaillons, de stabiliser l'instable pour rendre le médicament soluble, mais aussi stable. Donc pouvoir garantir cette stabilité. Donc ça, c'est un défi, et l'industrie pharmaceutique, partout, travaille énormément sur cet aspect, parce que les labos pharmaceutiques ont dans leur tiroir ce qu'ils appellent des cailloux, donc des molécules existantes déjà, mais qui n'ont jamais pu être formulées parce que non solubles. Et il en existe, voilà.
Mais vous avez encore beaucoup de travail dans votre laboratoire, Monsieur Descamps, je vous remercie beaucoup.
Merci, monsieur.